Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. C'est aujourd'hui la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qui prévoyait le partage de la Palestine en deux États. Pierre Motin, responsable plaidoyer à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, sera l'un de nos invités. Face à la propagation du variant Omicron du coronavirus, plusieurs pays ferment leurs frontières aux voyageurs étrangers, à l'image des autorités marocaines qui suspendent pour deux semaines tous les vols directs de passagers à destination du Maroc. Le ministre français de l'Intérieur appelle le Royaume-Uni à ouvrir un accès légal à l'immigration et à prendre ses responsabilités. Un appel au lendemain d'une réunion intergouvernementale consacrée à la lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de passeurs après le drame de la semaine dernière et la mort de 27 exilés dans la Manche. Notre invité sera le président de France Fraternité, l'ex-directeur général de France Terre d'Asile, Pierre Henry. Suite à cette réunion, entretien également avec Patrick Le Yarrick, l'ex-député européen et éditorialiste à l'Humanité, estime que les gouvernements se servent des migrants comme moyen de pression. Vous l'entendrez. Cela fait plus d'un mois, une trentaine d'étudiants et militants syndicaux occupent le bâtiment administratif de l'Université Paris-Nanterre, des étudiants qui demandent à poursuivre leurs études. Nous écouterons Bart Piron de la tendance Action collective et luttes étudiantes au sein du syndicat UNEF. C'est donc aujourd'hui la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté la résolution sur le partage de la Palestine. La journée internationale de solidarité offre à la communauté internationale l'occasion de concentrer son attention sur le fait que la question de la Palestine n'est pas réglée et que le peuple palestinien n'a pas atteint ses droits inaliénables tels que définis par l'Assemblée générale. Entretien avec Pierre Motin, responsable plaidoyer à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine.
C'est une journée qui permet de rappeler au niveau international l'importance qu'a la solidarité avec les Palestiniens. C'est l'occasion de rappeler l'occupation, les violations des droits humains dont sont victimes les Palestiniens et de faire comme ça le point un peu chaque année.
Et vous, au sein de la plateforme des ONG pour la défense de la Palestine, est-ce que vous pouvez nous faire part aujourd'hui de vos principales demandes et de vos principales missions?
Actuellement, un de nos principaux axes de travail, c'est la solidarité avec les ONG palestiniennes. Fin octobre, 6 grandes ONG palestiniennes ont été classées comme organisations terroristes par le gouvernement israélien. C'est une nouvelle extrêmement grave parce que ce sont des organisations très actives dans la documentation des violations des droits de l'homme en Palestine occupée, nous avons une activité assez importante pour faire en sorte que la position du gouvernement français et aussi des autorités européennes change pour exprimer leur solidarité envers ces ONG et clairement rejeter la décision des autorités israéliennes. Ensuite, une autre importante thématique de travail pour notre plateforme, c'est la lutte contre le commerce avec les colonies. Il faut savoir qu'en septembre dernier, la Commission européenne a accepté une initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire une pétition officielle qui doit réunir 1 million de signatures pour justement interdire le commerce avec les colonies. Donc c'est une pétition qui sera lancée courant février 2022 et on espère réunir donc 1 million de signatures entre 2022 et 2023 pour que cesse le commerce avec les colonies israéliennes implantées en Cisjordanie. Dans un contexte où les violences des colons envers les Palestiniens augmentent particulièrement, on dénombre aujourd'hui plus de 150 blessés palestiniens depuis le début de l'année et trois morts dus uniquement à la violence des colons israéliens.
Ce 29 novembre 1947 représentait un espoir. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui?
L'état des lieux est assez sombre. La colonisation de la Cisjordanie augmente, s'intensifie. Le nombre de colons augmente dramatiquement. Les Palestiniens sont soumis à des violations des droits de l'homme quotidiennes, que ce soit sur leur liberté d'expression, leur liberté de déplacement. Ils font face à des détentions arbitraires, des exécutions extrajudiciaires. La situation sur le terrain est mauvaise. Ensuite, là où on peut être un petit peu plus optimiste, c'est justement sur le dynamisme de la société palestinienne. Le fait qu'on voit beaucoup de jeunes Palestiniens qui s'organisent dans le cadre d'ONG, d'associations, de projets très novateurs pour justement combattre pour lutter contre l'occupation israélienne par des moyens très, très originaux.
Pierre Motin, responsable plaidoyer à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. La reprise des négociations à Vienne pour relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances, elle aura lieu cet après-midi. Les pourparlers avaient été suspendus en juin dernier. L'Iran se dit fermement déterminé à parvenir à un accord avec la communauté internationale. Face à la propagation du variant Omicron du coronavirus, plusieurs pays ferment leurs frontières aux voyageurs étrangers. Les autorités marocaines ont décidé hier de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Maroc, cela pour une durée de 2 semaines à compter de ce lundi, ce soir, à 23h59. Le Japon aussi sera inaccessible dès demain aux visiteurs étrangers. Israël ferme ses frontières également. Dans ce contexte, le G7 réunit en urgence à Londres ses ministres de la Santé. Et de son côté, la Tunisie met à jour ses conditions d'entrée. À partir d'après-demain, mercredi, toutes les personnes devant se rendre dans le pays devront présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures avant le départ. Jusqu'alors, le délai était de 72 heures, une mesure applicable aux voyageurs de plus de 6 ans. C'était hier à Calais, une réunion intergouvernementale autour de la question des exilés. Une réunion consacrée à la lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de passeurs après le drame la semaine dernière, la mort de 27 exilés dans la Manche. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé aujourd'hui le Royaume-Uni à ouvrir un accès légal à l'immigration et à prendre ses responsabilités. Je vous propose d'écouter l'ex-directeur général de France Terre d'Asile, le président de France Fraternité, chercheur à l'IPSE, Pierre-Henri.
J'entends un discours récurrent qui est celui de la lutte contre les passeurs. Bien sûr qu'il faut lutter contre les passeurs. Qui peut dire le contraire ? Il faut lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Mais enfin, ça ne suffit pas.
Et vous estimez qu'il faut oser parler aujourd'hui de régularisation, même si cela est difficile en période électorale ?
Moi, je constate qu'à Calais, il y a un certain nombre d'Érythréens, de Soudanais, d'Afghans qui sont dublinés et qui, de toute façon, ne veulent pas repartir dans le pays de premier accueil et dans un certain nombre de premières entrées sur le territoire de l'Union. Et ça, on les comprend plutôt parce que le système d'asile est très inégal en Europe. Et puis, il y a aussi à Calais un certain nombre de personnes qui sont déboutées définitivement de leur demande. Vous savez, en France, aujourd'hui, on déboute des personnes qui viennent d'Afghanistan. On considère qu'ils n'ont pas d'opinion politique véritable, ils n'ont pas manifesté d'opposition véritablement aux talibans, donc on les déboute. Mais en même temps, et fort heureusement, on ne les renvoie pas. Et donc on les laisse sur le territoire en totale précarité. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire ? Ben, essayer de tenter le passage vers un autre pays. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut avoir le courage aujourd'hui, même en période électorale, de parler de régularisation. Vous savez, à quelques centaines de kilomètres d'ici, on regarde la question de l'immigration d'une autre manière. C'est en Allemagne. Et c'est une coalition majoritaire. Donc il n'y a pas de fatalité à ce que nous nous laissions gagner par un discours zémourien et lepéniste dans notre pays autour de la question de l'immigration. Il faut que les politiques se ressaisissent. Il est plus que temps. Et se ressaisir, c'est parfois être aussi courageux et pragmatique. Et le pragmatisme et le courage aujourd'hui, c'est de régulariser un certain nombre de personnes que, de toute manière, nous ne renverrons pas vers leur pays d'origine.
Comment s'explique aujourd'hui la multiplication des traversées ou tentatives de traversées vers le Royaume-Uni ?
Il y en a eu 30 000 depuis le début de l'année. 30 000 depuis Calais et tout le littoral calaisien. Bah, vous fermez toutes les portes. eh bien, les réseaux travaillent sur une autre porte. Vous savez, quand vous êtes à Calais, par beau temps, vous voyez Douvres. C'est 17 kilomètres, voilà, vol d'oiseau. Et donc, les gens qui viennent de faire des milliers de kilomètres touchent des yeux leurs rêves. Bien évidemment que les passeurs en profitent. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'appelle à une voie de migration légale. Alors, bien évidemment, j'ai entendu la réponse de Boris Johnson qui dit « Mais que la France reprenne tous ceux qui ont tenté un passage illégal ». Évidemment, on a là la posture d'un leader populiste, menteur, manipulateur, qui instrumentalise la question. Mais à un moment donné, lorsqu'il dit qu'il veut reprendre le contrôle sur les frontières, eh bien très bien, qu'il reprenne le contrôle de la frontière et qu'il l'installe à Douvres, mais pas à Calais.
Pierre Henry, ex-directeur général de France Terre d'Asile, président de France Fraternité, chercheur à l'IPSE, suite à cette réunion intergouvernementale autour de la question des migrants. Je vous propose à présent d'écouter Patrick Le Yarrick, éditorialiste, ancien député européen. Il estime que les gouvernements se servent des migrants comme moyen de pression. Patrick Le Yarrick.
Ce qui se passe là est affreux. On laisse des jeunes gens qui fuient la guerre, qui fuient les persécutions, qui fuient les famines, qui sont menacés de mort. J'ai entendu ce matin le cas d'un Irakien qui était menacé de pendaison. On les traite comme du bétail à Calais, et ensuite on les laisse prendre des embarcations de fortune qui profitent d'ailleurs bien aux passeurs. Donc il faut faire respecter le droit d'asile et il faut trouver un accord Royaume-Uni-France pour celles et ceux qui veulent rejoindre leur famille là-bas dans des conditions de transport décent par bateau ou par train, de telle sorte qu'ils se retrouvent là-bas. Et pour les autres, il faut faire activer le droit d'asile en coopération avec d'autres pays européens.
On a l'impression aujourd'hui que la France se retrouve dans la même situation que l'Italie et la Grèce vis-à-vis de la Grande-Bretagne.
Oui, il y a des similitudes parce que le président Sarkozy avait signé un accord avec la Grande-Bretagne qu'on appelle les accords du Touquet. Et dans ces accords-là, il a été convenu que la France serait la frontière de l'Union européenne pour ce qui concerne les réfugiés et les migrants. Donc cet accord-là, il faudrait évidemment le faire sauter et avoir un autre travail, un autre traité de coopération et respectant le droit d'asile des réfugiés.
Est-ce que le Brexit a compliqué cette question entre la France et la Grande-Bretagne ?
Ben, il y en avait déjà, puisqu'on sait qu'il y avait des grands campements à Calais, mais sans doute c'est aggravé, puisque dans la multitude de confrontations qu'il y a aujourd'hui entre la France et le Royaume-Uni, en plus de la pêche et un certain nombre d'autres choses, vous voyez bien que les migrants, là comme ailleurs, servent de monnaie, de pression, de chantage, ce qui est totalement abominable entre les pays.
Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité, il répondait à Loïc Barrière. Leur combat dure depuis un mois. Depuis le 27 octobre, une trentaine d'étudiants et militants syndicaux occupent jour et nuit le bâtiment administratif de l'Université Paris-Nanterre, des étudiants qui demandent à poursuivre leurs études. Bart Piron, de la tendance Action collective et luttes étudiantes au sein de l'UNEF.
Les sans-fac, c'est des étudiants qui sont, comme chaque année malheureusement, refusés ou acceptés dans aucune proposition de vœux, aussi bien en première année de L1 ou en Master 1 ou dans l'ensemble des tentatives de candidature qu'ils font, et donc des étudiants qui se retrouvent sans affectation à l'université ou ou en étant affectés dans des formations qui ne leur correspondent pas, qui ne leur plaisent pas et qui du coup revendiquent le fait de pouvoir s'inscrire dans la fac et la filière de leur choix. Alors aujourd'hui, un certain nombre, en tout cas à Nanterre, ont pu malgré tout trouver des inscriptions par la mobilisation qu'on a eue au niveau de l'UNEF. Mais on a encore aujourd'hui, et c'est la raison de l'occupation qu'on organise depuis un mois, une soixantaine d'étudiants qui sont toujours sans affectation et à qui l'université ne propose rien. Elle se contente de dire « nous n'inscrirons plus personne à Nanterre ». Et donc ces étudiants, pour l'instant, sont amenés à rester sans fac une année entière.
Est-ce qu'il y a des filières qui sont plus concernées que d'autres ?
bien évidemment. Je pense qu'elle a L1. C'est principalement les filières de STAPS, de psychologie, de droit ou d'économie-gestion. Et en réalité, on retrouve ça aussi au niveau des masters. Voilà, les masters qui sont les plus sélectifs, dans lesquels il y a le moins de places, et qui donc acceptent un nombre plus réduit d'étudiants, qui sont voilà également les masters de droit, psychologie, économie, entre autres.
Est-ce que ces étudiants sont informés de ce manque de débouchés quand ils commencent leurs études ?
Alors, en l'occurrence, pour les étudiants qui se retrouvent sans fac en L1, pas du tout. Enfin, c'est les étudiants qui connaissent Parcoursup, qui savent que ça existe, mais à qui, tout le long de leur scolarité, on leur dit que, voilà, il faut faire des études, il faut avoir une place à l'université, qui pourront la trouver, mais qui sont pas forcément au courant de la réalité de la sélection. Même si, voilà, Parcoursup existe depuis un certain nombre d'années, donc. Elle se constate quand même de plus en plus. Et au niveau des masters, évidemment, il y a une grosse pression qui est mise au quotidien sur les étudiants pour leur dire faites attention à vos résultats, le nombre de places est limité en master, la sélection est importante.
Et de quelle manière s'opère cette sélection ? C'est sur les notes, sur d'autres critères ?
Alors ça, c'est souvent le grand flou, justement. Sur Parcoursup, la sélection est très opaque. Voilà, il y a des, on se doute, on sait, il y a des algorithmes qui existent, on ne sait pas précisément tout le temps comment ils fonctionnent, mais ce qu'on constate, c'est que c'est en réalité en partie une sélection sur les notes, mais qu'elle dépend aussi beaucoup d'éléments sociaux, c'est-à-dire du lycée d'où viennent les étudiants qui candidatent en L1, des options qu'ils ont faites quand ils étaient au lycée, bien évidemment aussi leur résultat scolaire. Pour ce qui est des masters, c'est pareil, c'est les profs qui choisissent voilà, selon le dossier des étudiants. Donc c'est une sélection quand même assez voilà, au mérite malgré tout d'un certain point de vue, avec des critères qui des fois malgré tout sont quand même assez flous, et surtout une sélection qui en réalité s'opère surtout sur une base, c'est il n'y a pas assez de place, donc on prend un nombre limité d'étudiants.
Bart Piron de la Tendance Action Collective et Luttes étudiantes au sein de l'UNEF, il répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Yannick Trigance, conseiller régional en Ile-de-France, secrétaire national du PS à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Émission présentée par Loïc Barrière à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h et à 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h17.